RFI, grand reportage.
Charlotte Hydrac.
Bonjour, depuis le 1er août dernier, la disparition d'un homme en Patagonie fait frissonner nombre d'Argentins. Personne ne sait ce qu'est devenu Santiago Maldonado, 28 ans, depuis que la gendarmerie l'a emmené lors d'une opération contre une communauté autochtone dans la région de Chubut. Les interventions des forces de l'ordre sont constantes depuis que cette communauté s'est installée en 2015 sur un territoire appartenant à la multinationale italienne Benetton. Santiago était venu la soutenir parmi d'autres militants. Et cette première disparition sous l'ère du président Macri cristallise le tabou que constitue la colonisation de la Patagonie, qui fut aussi l'histoire d'un génocide. Reportage de Caroline Trouillet sur le territoire en conflit 6 mois avant la disparition du militant. Le combat des Mapuches pour la terre en Patagonie.
Le son de la Truktuka se mêle au vent dans l'immensité des steppes de Patagonie. Entre la route 40 qui traverse l'Argentine du nord au sud et les étendues rases où vit la communauté mapuche de Vuelta del Río, un violent conflit est en cours dans le Chubut. Il y est question de terre, de qui a droit à la terre. L'entreprise italienne Benetton défend la parcelle comme sa propriété, parmi 900 000 hectares qu'elle acquit en Argentine dans les années 90. Mais une communauté mapuche la revendique comme terre autochtone, car y vivaient leurs aïeux il y a plus d'un siècle. Depuis mars 2015, ils se sont alors lancés dans une récupération territoriale, mais aussi identitaire.
Nous faisons partie de la LOF en résistance du département du Cuchamen. LOF signifie un ensemble de communautés parce qu'ici vivent des personnes provenant de différentes communautés mapuches de la région du Cuchamen. Et Cuchamen est la déformation qu'ont fait les Winca, les Blancs, du Curra Mapu. Curra veut dire la pierre et Mapu, la terre, car ce territoire est très sec.
Curra est la pierre, c'est ok, c'est un territoire où il y a beaucoup de pierres.
Nostro Bolivia estaño y soledad.
Depuis 2 ans qu'elle s'est installée à Vuelta del Río, la LOF en résistance s'est bien étoffée. Les récoltes de blé se profilent, quelques maisons chétives se sont construites et des enfants y sont nés. Les porte-paroles du groupe sont jeunes, certains n'ont qu'une vingtaine d'années. Dans l'anonymat, ils expliquent leur démarche.
Moi, je suis arrivé l'année dernière, car il faut bien comprendre que les camarades ont décidé de récupérer cet espace pour l'ouvrir non seulement aux familles de la région, mais aussi au peuple mapuche dans tout son ensemble. Ils ont donc invité des personnes provenant des grandes villes, comme moi, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir notre propre terre.
Cet espace appartient au groupe Benetton qui, pour nous, est un ennemi stratégique en tant que multimillionnaire et propriétaire d'un territoire de presque 1 million et demi d'hectares. Et parce que les espaces fertiles qu'il possède contrastent avec nos terres. Les zones où la végétation est pauvre, où il n'y a que des pierres et du sable, là survivent nos familles, nos grands-parents. Nos parents y sont nés. Et à force de vivre dans l'extrême pauvreté, sans la possibilité d'élever du bétail, parce que l'herbe est rare, sans pouvoir semer parce que l'eau manque, ils ont fini par devoir s'exiler dans les villes.
Aujourd'hui, c'est la pleine lune et c'est aussi la veille d'un traboun, cérémonie mapuche, organisée cette fois en urgence. En effet, une semaine plus tôt, le 9 janvier, les forces de l'ordre sont intervenues sur le territoire occupé par la LOF et ont violemment réprimé plusieurs membres de la communauté.
Chaque fois, ils interviennent avec violence. Ils tirent avec des balles de plomb. Nous en avons la preuve en retrouvant les cartouches des pistolets calibre 9 mm que perd la police. Mais dernièrement, cette violence s'est clairement intensifiée. 10 camarades ont été emprisonnés et certains blessés sont encore hospitalisés à Bariloche.
Tout à l'heure, il y avait une voiture de police qui s'arrêtait au loin pour prendre des photos.
Cette scène est quotidienne. Le harcèlement psychologique qu'ils exercent est permanent. Et c'est justement pour cette raison que nous portons des cagoules. Si nous sortons du territoire le visage découvert, la police nous arrête, nous poursuit. Et ce n'est pas seulement parce que nous sommes engagés dans cette récupération, car cette pratique, la police provinciale l'exerce à l'encontre de tout Mapuche dans n'importe quelle ville.
Qui représente Benetton ici? J'ai entendu le nom de McDonald's. Est-ce qu'il se montre sur le territoire?
À chaque intervention, McDonald's était présent, guidant la police. De fait, les chevaux mobilisés étaient ceux de l'entreprise. Et ils ont séquestré nos propres chevaux avec un véhicule leur appartenant. C'était un camion sans plaque d'immatriculation et nous savons bien qu'il appartient à Tierras del Sur.
Deux semaines plus tard, la LOF est à la gendarmerie d'El Maiten, ville du Chubut la plus proche du territoire en conflit et où la compagnie Tierra del Sur, alias Benetton, est implantée. Les 10 chevaux séquestrés par les gendarmes sont finalement restitués à la communauté, parmi laquelle se trouve Maximiliano Jones Walla, un des initiateurs de la récupération qui a été mis en examen pendant un an pour suspicion de terrorisme.
Quand nous avons entamé la récupération en 2015, nous avions une stratégie claire pour pouvoir occuper le territoire, mettre des cagoules, parce que dès qu'ils nous identifient, ils nous traînent en justice. Mais pour nous, la question des populations autochtones face aux États est une question politique. Elle n'a pas à être traitée par la justice. Le peuple Mapuche est reconnu dans la Constitution argentine et par la Convention 169 de l'OIT. Mais ces conventions et ces lois ne sont jamais appliquées tant que personne n'en impose le respect.
En réalité, le traitement judiciaire de cette affaire révèle le sort que l'on réserve à la revendication territoriale du peuple Mapuche. C'est une criminalisation maximale.
Fernando Radzivilovski et Karina Gabriela Albornoz sont les avocats qui accompagnent les membres de la LOF poursuivis au pénal dans le cadre du conflit.
Dès le jour suivant la récupération, des fonctionnaires du gouvernement provincial commencèrent à stigmatiser les membres de la LOF, comme si c'était des étrangers, et à en parler comme de terroristes. Alors les porte-parole organisèrent une conférence de presse pour se présenter et expliquer leurs intentions. Et leurs intentions étaient d'entamer un dialogue. À la suite de cette conférence, les personnes qui organisèrent l'événement et qui prirent la parole en public furent inculpées pour délit d'usurpation, dommages et résistance à l'autorité. Mais l'enquête judiciaire qui fut menée ne le fut qu'en direction d'une seule personne, Martignano Juanes Huala. On lui a appliqué la loi antiterroriste en lui reprochant des liens avec une organisation clandestine, le RAM, et son implication dans différents attentats. Il n'avait pas moyen d'expliquer un quelconque lien entre Martignano et des attentats qui ont eu lieu au Chili et dans le Rio Negro.
Et ils n'ont trouvé aucun élément. Au terme d'une procédure d'enquête pourtant très longue, plus d'un an mobilisant tout l'appareil d'État pour surveiller Martignano, ils n'ont pu prouver aucune implication terroriste.
Et est-ce que le procès pour usurpation a vraiment du sens si nous parlons de la propriété du territoire? Est-ce que Benetton peut fournir des titres de propriété pour délimiter spécifiquement cette zone? Car les clôtures étaient installées de manière assez aléatoire, semble-t-il, depuis qu'elle a acquis son domaine.
Cette question pourrait surgir plus tard, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est la revendication que fait cette communauté d'un espace de terres ancestrales qui leur fut arraché de manière délictueuse. Autrement dit, à travers un génocide. Donc, la question n'est peut-être pas tant où est posée la clôture, mais comment arriver jusqu'à elle.
Jones, notre nom de famille, nous a été imposé. Ils disent que je suis britannique, que mon père est britannique. Mon père est né dans un village qui s'appelle la mine de l'Indien, en plein cœur du Kuchamen. Et nous appartenons à la famille des Wankelef. Wankelef était la femme de Raphaël Nawelkir, qui fut assassinée par les Anglais, ceux-là même qui donnèrent leur terre à Benetton. Voilà la réalité.
Cette voix est celle de Facundo John Suala, autorité spirituelle de la communauté Mapuche et neveu de Martignano, qui s'exprime en août 2016 depuis la prison d'Esquel, où il est toujours incarcéré à ce jour. Son histoire familiale, comme celle de nombreux Mapuches, porte les traces d'une colonisation violente de la Patagonie. En 1878, l'État argentin mène une opération militaire qui, sous le nom de conquête du désert, intégra les terres australes du pays au territoire national. Les populations autochtones Mapuche et Telhueche sont alors décimées ou déplacées. L'historien Ernesto Maggiori revient sur les fondements d'une conquête qui tait son nom de génocide.
L'État national voulait prendre possession du territoire. Il construit alors l'idée que ces terres n'étaient qu'un désert. Or, il n'avait aucune connaissance de cet espace, qui en aucun cas ne pouvait être un désert, puisque non seulement ils y découvrirent des forêts, des rivières, des lacs, mais surtout il était complètement habité. Une fois terminée la conquête du désert, le territoire fut divisé en parcelles et distribué en récompense à ceux qui avaient financé la conquête. Tous ces gens qui ont survécu au massacre et qui n'avaient plus d'endroit où vivre se transforment alors en un problème. Et il parut plus opportun à l'État de les sédentariser en créant des réserves indigènes que de les voir déambuler et générer des conflits avec les nouveaux propriétaires. L'espace fut alors réparti ainsi. Beaucoup de terres pour peu de personnes et très peu de terres pour beaucoup de personnes. Telle est la différence de peuplement entre la réserve du Cuchamen et, par exemple, le domaine des Anglais.
Les Anglais, ce sont The Southernland Company, entreprise qui acquit de la part de l'État argentin près d'1 million d'hectares en 1889 pour avoir aidé financièrement l'armée à la conquête du désert. L'avocat Gustavo Macacho a étudié les textes originaux de cette transaction de terres productives dont les frères Carlos et Luciano Benetton devinrent propriétaires un siècle plus tard.
Sí, es una donación. 10 estancias de 90 000 hectáreas.
Si ce fut bel et bien une donation de 10 domaines de 9000 hectares à 10 citoyens anglais, progressivement, ils vont transférer les terres à une entreprise, la Compagnia de Tierra Sul Argentino, qui à cette époque s'appelait The Argentine Southernland Company. Cette entreprise fut créée à Londres dans le but d'acquérir des terres en Amérique du Sud. Et bon, elle émanait probablement de la couronne britannique. Ces 10 domaines, parce qu'ils sont côte à côte, forment en fait, un seul et même territoire qui débute à Neuquén, traverse le Rio Negro et s'étend jusqu'au Chubut, comme un territoire féodal tout à fait illégal, car la législation à cette époque interdisait expressément la donation de superficie supérieure à 625 hectares. Ensuite, entre les années 1990 et 1992, les actions de l'entreprise sont vendues à la multinationale Benetton, ce qui était un domaine agricole avec un profil bas devient alors une vitrine de Benetton, une entreprise mondialement connue et dont l'image marketing repose justement sur la promotion de la diversité culturelle.
Que consiste justement en la diversité culturelle.
I'm black. We are colors.
Colors. Las nuevas fragancias femeninas de Benetton.
La voix de Benetton n'est pas facile à entendre depuis la Patagonie. Ronald McDonald, l'administrateur de la Compañía Tierra del Sur, refuse tout entretien, déléguant la prise de parole vers l'agence de communication de l'entreprise. À défaut, Oscar Curilén, maire d'El Maiten, explicite depuis son bureau le poids économique de l'entreprise pour l'activité de sa ville, entourée de 123 000 hectares appartenant à Benetton.
Chaque année, nous bénéficions de leur apport économique pour notre activité sportive et culturelle. Ils ont financé un gymnase d'El Maiten, ont parrainé une bibliothèque de Buenos Aires Chico et aussi une garderie pour les enfants de milieux modestes. Ensuite, bien sûr, nous prélevons des impôts sur leurs terres et d'autres taxes grâce auxquelles la population d'El Maiten peut vivre.
Et combien de personnes environ sont employées par l'entreprise dans la ville ?
Il y a deux variantes, ceux qui travaillent dans le secteur agricole autour de l'élevage et ceux qui travaillent dans le secteur forestier. Au total, nous avons environ 150 familles d'El Maiten qui dépendent exclusivement de l'entreprise.
Regarde, ce carré devant nous, c'est El Maiten. En face, devant la cordillère, les terres sont à Benetton. Au sud, jusqu'à l'horizon, à Benetton aussi. Et au nord, toute la ceinture où la rivière Chubut prend sa source appartient aujourd'hui à Lewis. Et plus loin, jusqu'où porte le regard, c'est encore le domaine de Benetton. La seule terre qui nous reste, c'est ici même.
Depuis le sommet du Léon, Javier Cagnu observe l'étendue de la vallée del Maiten. Cette montagne est un des derniers espaces préservés d'exploitation dans cette zone où la famille Cagnu fait paître son bétail depuis 1900. La mayoría de nuestra gente
le ha trabajado tanto los ingleses. Presque tous les Mapuches ont travaillé comme employés des Anglais, et aujourd'hui du mania italien. Grâce à notre peuple, il peut se vanter du capital qu'il détient aujourd'hui.
On rentre ? Il fait froid.
Allez, on passe à la cuisine ? Lorsque l'État céda la terre aux Anglais ici, il n'y avait pas encore de clôture. Les propriétaires faisaient paître leurs animaux sur les terres des habitants qu'ils employèrent alors comme bergers. Mon arrière-grand-père faisait ce travail ici. Ensuite, ils l'envoyèrent travailler dans un domaine des Anglais ailleurs. Et mon père aussi fut employé des Anglais.
Seul au sommet du Léon, où il emmène ses troupeaux en alpage, Javier évoque au coin du feu ses 10 années de labeur chez Benetton avec recul. Depuis, il dut défendre le domaine familial contre des menaces d'exploitation touristique. Et le jeune homme s'est émancipé en revendiquant une origine, une identité avant tout autochtone. Bueno.
S'agissant du travail quotidien, ce n'était rien d'un autre monde. Le travail au champ elle-même, pour l'entreprise ou en dehors. Mais je n'étais pas encore moi-même. J'étais, comment dire, un nomade. Un pauvre argentin essayant de gagner quelques pesos. Notre conscience mapuche est en phase d'éveil. Chaque jour se lève davantage de communautés, s'éveille davantage de conscience. Je suis passé par là. Un jour, se rendre compte que ce qui compte, c'est la défense de notre terre mère, notre Ñuqué Mapu. Et à partir de cette prise de conscience, j'ai rencontré une grande famille, celle du peuple auquel nous appartenons.
La génération de Javier déterre les mémoires enfouies par les parents et grands-parents qui ont vécu en silence la conquête du désert, puis la dictature militaire. Ce travail de reconnaissance suit un processus intime, mais il s'inscrit aussi dans une dynamique collective et politique, construisant un idéal de retour au peuple ancestral. Si elle n'est pas la seule en Argentine, la réappropriation territoriale tentée par la Love du Cuchamen a ainsi aujourd'hui la portée la plus politique et médiatique du pays.
Mon arrière-grand-mère, après la mort de ses parents, fut vendue. Des cas comme le sien furent nombreux à l'époque, ce qui produit un déracinement et une acculturation violente de ce qu'était la culture mapuche. Et en ayant perdu cette mémoire, aujourd'hui, bien souvent, nos propres familles se renient elles-mêmes comme mapuches. Mais actuellement, à travers les récupérations, disons que la conscience commence à ressurgir. Ma grand-mère parle à nouveau de ce qui lui est arrivé, de son enfance, de sa mère. La reconstruction de notre peuple, mais aussi de nos familles, de notre lignage, est en marche. Cette reconstruction, nous la menons à travers nos cérémonies, notre spiritualité et surtout en vivant sur notre territoire ancestral. Sans la possibilité de vivre sur notre territoire, nous ne pourrons pas déployer notre culture. D'où l'importance de cette récupération et de toutes les autres récupérations en cours.
Nous avons appelé à des solutions politiques depuis plusieurs années. Nous n'avons jamais voulu arriver à une quelconque situation de violence. Nous nous sommes cassé le dos toute notre vie au travail et la seule chose que nous avons reçue en retour historiquement a été la répression et la prison. Je vais continuer à appeler mon peuple à se lever avec dignité pour récupérer toutes les terres qui nous ont été volées. Que nous nous fassions enfin respecter. Nous voilà épuisés. Qu'on ne nous ampute plus jamais davantage de nos droits. Voilà tout. Merci beaucoup, monsieur le juge.
Le combat des Mapuches pour la terre en Patagonie, un grand reportage de Caroline Trouillet. Réalisation Eva Mouchinski.